Bonjour, je m'appelle Marielle et j'ai le plaisir de vous accueillir sur Compresse et Sparadra, le podcast qui donne la parole aux soignants. Ici, on parle de vocation, d'expérience, de déception, de choix de carrière, mais aussi de remise en question et de moments de bonheur. L'idée, vous faire découvrir ces métiers de l'ombre, l'envers du décor du milieu hospitalier, par le biais de partage d'expériences et d'interviews sans tabou. Aujourd'hui, je donne la parole à Fanny, médecin, chercheur, enseignante. Au cœur du domaine de l'endocrinologie, Fanny fait partie de ces professionnels qui ne s'ennuient pas. Je suis ravie de vous faire découvrir son parcours. Bonne écoute. Bonjour Fanny.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Eh ben, ça va, en ce mardi matin qui est pour moi ensoleillé, ça va.
Mais non, t'as du soleil, c'est difficile à croire. Moi, il fait tellement gris depuis tellement de jours.
Oh non, désolée.
On attend vraiment que le printemps arrive. Fanny, je te remercie vraiment de m'accorder du temps. Je sais que tu as une vie très remplie. On va avoir l'occasion d'en parler dans cet épisode. Donc, merci beaucoup de me dégager quelques heures, parce que le temps de discuter un peu de l'ancien enregistrement, ça dure quand même en général quelques heures. Je suis très contente de te recevoir. Et pour commencer cet épisode, écoute... La petite présentation qui va bien.
Eh bien, déjà, avec plaisir. Je m'appelle Fanny, je suis médecin endocrinologue et je suis actuellement chef de clinique dans un hôpital. Et j'ai un statut, on va dire, un peu particulier, puisque je suis également à 50% de mon temps post-doctorante. Donc, c'est le statut qu'on appelle après le doctorat de sciences dans un laboratoire de recherche. Donc, je travaille à moitié dans un service hospitalier et l'autre moitié dans un laboratoire de recherche.
D'accord, très intéressant cette double casquette.
Et puis, c'est à peu près tout.
C'est à peu près tout.
Enfin, si j'ai pas d'autres choses professionnelles qui me caractérisent et c'est déjà bien assez, je pense.
Oui, c'est ce qu'on disait, les journées sont déjà bien remplies, j'imagine, comme ça. Fanny, tu sais que moi j'aime toujours connaître ce qui t'a amené vers un métier dans la médecine. Est-ce que c'est quelque chose qui était tout tracé pour toi? Comment ça s'est présenté?
Je dirais que pas trop, parce que en fait je me rappelle pas quand j'étais petite m'être toujours dit que je voulais être médecin. Je me rappelle par contre avoir eu à peu près, 50 idées des métiers que j'aurais voulu faire. J'ai voulu être interprète, par exemple, aux Nations Unies, puisque rien que ça. En fait, franchement, je peux pas me rappeler d'un moment où je me suis dit je vais être médecin, à part en terminale où j'avais j'ai toujours eu quand même une appétence pour les sciences en terminale. Donc moi je suis pas de la dernière génération, donc moi c'était pas Parcoursup, c'était encore avant, mais on devait un peu choisir et tous mes profs me poussaient pour aller en prépa, pour continuer un peu dans cette voie scientifique, mais je me voyais pas. Je comprenais pas ce que c'était ingénieur comme métier. Et du coup je voulais en fait aller des études qui avaient un métier qui était défini, et même si j'étais pas trop sûre d'être médecin, de vouloir être médecin, en tout cas médecine me paraissait un cursus qui m'intéressait, notamment les études de médecine. Et en fait mon papa était médecin lui-même et ma sœur est pharmacien, et donc en fait elle a quelques années de plus que moi, donc je l'avais vu faire les études de pharmacie et je trouvais que ça avait l'air vraiment bien, le côté stage et tout ça, je trouvais ça sympa, et donc du coup c'est un peu comme ça que j'ai fini en médecine, en fait. Je sais pas si c'est vraiment, en tout cas je peux pas dire que c'était une vocation depuis ma petite enfance d'être médecin, malgré en plus que j'avais un papa médecin. J'étais ni dégoûtée de cette profession ni vraiment attirée particulièrement.
Très bien, je vois. Et du coup c'est ce qu'on se disait en off dans l'épisode 51 qui est sorti quelques jours avant qu'on enregistre cet épisode. Léa est bien rentrée dans le détail du détail des études de médecine, l'externat, l'internat, etc. Donc je pense qu'on va pas re-rentrer dans le détail dans cet épisode-là, mais moi ce qui m'intéresse c'est de savoir déjà au niveau de ton ressenti comment ça s'est passé au niveau des études. Est-ce qu'il y avait du stress? Est-ce qu'il y avait de l'appréhension? Cette envie d'être vite médecin? Comment ça s'est passé?
Alors l'envie d'être vite médecin, non. Tu vas voir que quand je vais te raconter mon parcours, moi les études j'aime bien ça. J'ai fait longtemps d'études. J'ai bien aimé, les études et tout ça. J'ai eu un peu de mal au démarrage. J'ai fait deux premières années. Au début, j'ai eu un peu du mal. C'est arrivé, une période de la vie où il s'est aussi passé des choses d'un point de vue personnel. Et du coup, j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans. Et ce qui m'a fait vraiment rentrer dedans, c'est un peu de me de me dire que j'allais faire les choses un peu à mon rythme et de pas trop me mettre de pression. C'est pas facile à faire parce que l'environnement est tel que tout le monde pense que voilà, il faut être le meilleur tout le temps. Et mais voilà, j'ai redoublé ma première année de médecine et j'ai redoublé une année ensuite pendant l'externat. Et en fait, au début, je l'ai hyper mal vécu parce que j'avais été toujours très très scolaire et plutôt bonne élève. Et en fait, ça a été vraiment la meilleure chose qui me soit arrivée parce qu'en fait, j'ai pris une année où j'ai été un peu en stage, j'ai bossé de mon côté mais à mon rythme, j'en ai profité pour faire d'autres choses. Et ça m'a fait vachement de bien. Et en fait, j'ai trouvé que ça m'avait aussi permis de prendre de la distance quand on est dans les études en médecine, on a un peu une vision tunnelisée des études où on a l'impression que c'est tout notre monde, c'est ça. Et ben moi, je trouve que cette année-là, elle m'a permis aussi de me rendre compte que ben, y avait aussi plein d'autres choses et qu'on pouvait faire d'autres choses. Et ça, c'est toujours eu un peu une envie de faire plein de choses. Et donc cette année-là m'a permis aussi de faire un peu d'autres petites choses, voilà, développer des passions, des choses comme ça. Et c'était et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Donc après, je les ai vécues beaucoup plus sereinement, quoi.
Ok.
Après, les gens qui me connaissent te diront que je suis quand même aussi quelqu'un de quand même très très stressé. Et le jour de l'internat, le jour du concours, enfin voilà, j'en menais pas large. Hein. J'ai fait venir ma maman à l'hôtel avec moi, à côté du centre d'examen, pour me soutenir, parce que vraiment j'étais quand même très stressée. Donc même si j'abordais ça de manière assez sereine, il y avait quand même un certain stress que je peux pas négliger.
Bon, c'est un stress qui s'entend complètement. Enfin, tu vois, moi, de ce que j'entends du coup, de ce que j'ai découvert à travers l'épisode de Léa, tu dois quand même avoir l'impression qu'une partie de ta carrière, même une sacrée partie de ta carrière, se joue. Donc, il y a quand même de quoi être réellement angoissé ce jour-là. Du coup, toi, quel était le projet, sachant que l'internat, voilà, ça reste un nouveau concours dans le concours. Mais quelles étaient tes ambitions, toi, pour la suite ?
À l'époque, mon copain, qui est devenu mon mari par la suite, avait un an de plus que moi. Et donc, du coup, quand j'ai passé l'internat, il avait déjà choisi sa spécialité. Moi, les études de pendant l'externat, j'avais vachement d'appétence pour l'anesthésie-réanimation, justement. Ah. J'avais fait plein de stages en réanimation, aux urgences. J'avais fait un stage d'anesthésie, ce qui est pas, en tout cas dans ma fac, qui était pas classique pour les externes de passer en anesthésie. Et vraiment, j'aimais beaucoup cette spécialité. C'était, voilà, c'est ce que je voulais faire. Ça faisait beaucoup sourire mon entourage parce que, mon papa est anesthésiste, en fait. Et mon mari, du coup, est aussi anesthésiste réanimateur.
Ah,
donc,
bien
c'était,
fait.
Voilà, je partais pour suivre un peu une espèce de dynastie.
C'est ça.
Mais bon. Et en fait, donc j'ai vraiment abordé l'internat comme mon objectif, c'est si je peux, c'est de faire anesthésie réanimation. Mais par contre, moi, voilà, Léa le disait dans son épisode, l'objectif c'était la ville, parce que je ne voulais pas partir de Paris. À l'époque, ma famille était à Paris, mon conjoint était à Paris, donc moi c'était, enfin voilà, la ville, c'était la première chose que je prendrais. Et puis tant pis pour la spécialité. Je pense, tout m'intéresse, et du coup, j'avais quand même pas non plus peur. De si j'avais pas anesthésie réanimation, je me disais je trouverais autre chose qui va me plaire. C'est sûr, quoi. J'avais toujours tous mes stages d'externe, peut-être pas la chirurgie où j'étais vraiment pas douée de mes mains et c'était pas trop mon truc, mais le reste, je m'étais toujours dit voilà, j'aime bien plein de choses, donc on verra bien ce que le classement donne, quoi. Du coup, quand j'ai eu les résultats, j'ai eu un classement qui était correct. Voilà, j'étais dans les 2000 premières, je me rappelle plus exactement. C'est marrant parce que j'avais anesthésie réanimation à Paris, mais j'avais aussi d'autres spécialités médicales. Et puis, je sais pas trop comment c'est venu. J'étais passée externe dans un service d'endocrinologie qui m'avait bien plu. Et à un moment, un peu en l'air, je pense, je dis sinon, je ferais peut-être endocrinologie. Et là, il s'est passé un truc assez incroyable, c'est que tous les gens qui m'entourent m'ont dit avec un espèce de soulagement, mais ça te ressemble tellement plus que l'anesthésie-réanimation.
Ah, d'accord.
Donc, je me suis dit, c'est marrant, pourquoi les gens ont cette espèce de réaction-là? Et en fait, j'ai compris par la suite que je gère pas bien les imprévus, j'aime bien les trucs hyper encadrés, hyper planifiés, et en fait, je pense que quand on est étudiant, on se rend pas forcément compte de ce que c'est une spécialité et de comment on la vie après au jour le jour. Et donc je pense que un des grands trucs, c'était de se dire en fait elle va peut-être avoir du mal à gérer l'imprévu inhérent à une spécialité d'urgence, et une spécialité médicale où pour le coup on a vraiment très très peu d'urgence, ça lui correspond pour mieux, quoi. Et après, bah, cette réaction-là, et en me posant les questions, je me suis vraiment dit, OK, c'est ça que j'ai envie de faire. Et en fait, en plus, j'avais fait, pendant mes études, moi, j'ai fait un stage de 2 mois dans un laboratoire de recherche et qui m'avait aussi beaucoup plu. Et je savais que l'endocrinologie, c'était une spécialité où la recherche fondamentale était très importante. Et donc, en fait, je me suis dit, ah, mais peut-être que c'est aussi comme ça que je vais pouvoir faire un peu autre chose, c'est-à-dire de la médecine, mais peut-être éventuellement autre chose. Et donc, voilà, ça, j'ai discuté avec des gens, des gens que je savais avaient fait de l'endocrinologie et qui avaient fait de la recherche. Et ça a fini de me convaincre et j'ai choisi ça. Voilà, vraiment, j'étais hyper heureuse de mon choix. Et bah voilà, la suite le dit, je ne l'ai pas regretté, quoi.
Ah, c'est marrant cette histoire, on dirait vraiment le puzzle qui s'imbrique. Une fois que tu as sur un plateau devant toi ce que tu souhaitais, hein, l'anesthésie, réanimation, et puis avec le recul, les pensées de tes proches qui viennent un peu se confronter à ça, et puis toi qui finis par te dire, ouais, finalement, un service d'urgence me correspondrait peut-être pas trop vis-à-vis de ma façon de gérer le stress. C'est hyper intéressant, je trouve, comme cheminement personnel.
Ouais, et puis je trouve que, enfin, c'est peut-être bête ce que je vais dire, mais c'est, je suis assez fière de moi parce que j'avais beaucoup dit que je voulais faire anesthésie réanimation, et donc c'était un peu un truc qui était, voilà, tout le monde, pour tout le monde, j'allais faire anesthésie réanimation, c'était ça qui était prévu, quoi. Et donc je trouve que voilà, le jour où j'ai décidé, je m'en rappellerai. En fait, en plus j'étais en voyage, donc c'est mon père qui remplissait pour moi mes choix sur la plateforme. Je lui avais donné les codes d'accès, et donc vraiment quand je lui ai dit bah OK, c'est bon, tu prends Endocrino Paris, parce que bon, du coup j'ai pris Paris. J'étais vraiment hyper fière de moi, et voilà, c'était un peu un saut dans le vide parce que l'autre choix était peut-être plus sécurisant, puisque c'est ce que je connaissais le mieux, on va dire, de par mon entourage et tout ça, quoi.
Non, c'est un choix très très courageux, surtout tu parlais de cette histoire de tunnel d'études. Je pense que c'est quelque chose qui revient beaucoup quand j'interviewe des personnes qui sont dans la branche médecine, cette sorte de tunnel avec voilà les différentes étapes à passer. C'est très courageux d'arriver à ce stade-là des études, de se dire je vais renverser mes idées de base pour partir sur autre chose. Avant que l'épisode ne continue, Fanny, je me permets un aparté pour expliquer ce qu'est l'endocrinologie.
Ouais. Alors l'endocrinologie, j'ai tout bêtement tapé sur Google hier, parce que tu m'avais prévenu que tu posais cette question pour avoir une définition la plus consensuelle possible, et bon, mais c'est la même que celle que j'aurais donnée. En fait, l'endocrinologie, c'est la spécialité médicale qui va s'occuper de toutes les hormones et du coup des pathologies qui vont découler de ça. Donc en fait, pour la majorité des gens, celle qui est le plus connue, c'est on va dire, c'est le diabète, d'accord, qui est une maladie hormonale qui touche une glande qui est celle qui sécrète l'insuline, qui est le pancréas, mais on a aussi tout un autre panel de glandes dans le corps humain et qui, malheureusement, peuvent parfois se dérégler, et c'est là où on va être amené à voir un endocrinologue. Donc je disais, la maladie en tout cas la plus connue, et puis aussi en termes de fréquence, hein, forcément la plus fréquente, ça va être le diabète. Et après, juste derrière, on va avoir les maladies de la thyroïde, qui est une glande qui assure beaucoup de fonctions dans le corps humain. Et après, on va avoir tout un autre panel qui est lié à toutes les glandes dans le corps humain. Donc ça va toucher les troubles du cycle menstruel, les troubles de la fertilité. C'est assez large. C'est aussi pour ça que c'est une spécialité qui est intéressante, je trouve, parce qu'on est amené à avoir un profil de patient qui est très très varié, quoi.
Complètement. Alors du coup, cet internat, comment ça s'est passé pour toi ? Il n'y a pas eu de regrets une fois que tu es rentrée
Non.
Dans ce chemin-là ?
J'avais un peu d'appréhension pour la simple et bonne raison que, du coup, comme je l'ai dit, l'endocrinologie, c'est la spécialité qui touche, pour laquelle la majorité de nos patients sont diabétiques. Et malheureusement, en fait, la diabétologie, d'une manière générale, a un peu mauvaise presse pendant l'externat. Ce que j'explique pas vraiment, en fait, c'est une spécialité qui intéresse finalement pas tant que ça les étudiants, je pense parce qu'ils la comprennent pas vraiment. Et donc du coup, ce que j'avais fait, c'est que j'ai tout de suite fait un premier stage en diabétologie, donc un service vraiment dédié à ça, pour m'assurer que ça aussi ça me plaisait, puisque comme je savais pas ce que je ferais plus tard ou quel type d'activité, parce qu'en endocrinologie, en fonction de notre activité, ça va un peu conditionner les malades qu'on voit. J'ai tout de suite fait de la diabétologie, et en fait ça a été franchement ça a été une super surprise, enfin j'ai adoré, c'était c'était vraiment super. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est limite, c'est une spécialité à part entière. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le diabète, c'est une entité. En fait, le diabète, c'est à la fois plein de pathologies. C'est-à-dire que tous les diabètes ne sont pas pareils. Tous les patients diabétiques ne sont pas les mêmes. Donc, on les aborde vraiment de manière différente. Et ça, c'est hyper intéressant. Et donc là, je me suis vraiment dit, bon, bah, enfin, ok, si ça aussi ça me plaît, en fait, tout va, voilà, il y a pas de problème, ça va rouler. Et puis après, j'ai orienté mon internat vers voilà plutôt l'endocrinologie, on va dire pure, donc qui pour moi touchait donc en fait c'est toutes les maladies d'une glande donc que j'ai pas évoquée qui s'appelle l'hypophyse et enfin l'axe hypothalamo-hypophysaire surrénalien, qui sont des mal, enfin une glande qui est qui régule en fait toutes les autres glandes, en gros, pour faire assez simple, je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Et en fait, ça, c'est les maladies qui touchent les glandes, c'est des maladies qui sont rarissimes, mais qui, moi, m'intéressaient beaucoup. Et donc, après, j'ai un peu essayé d'orienter, voilà, en essayant toujours un peu de faire un peu plein de choses, mais d'orienter mon internat vers des services qui s'occupaient de ce genre de patients-là. J'ai oublié de préciser, dans mon parcours d'internat, en fait, moi, du coup, l'idée de faire de la recherche est revenue un peu pendant l'internat. Et puis, en fait, moi, j'ai eu des chefs qui nous en ont parlé en disant, voilà, c'est ici vous avez envie de faire un master 2 de sciences, c'est possible. Et si ça vous intéresse, voilà, il faut se manifester, entre guillemets, et dire que c'est ce qu'on veut faire. J'ai pas fait les choses de manière assez simple, puisque j'ai un jour décidé que je voulais faire ce Master 2 à l'étranger. Pour moi, c'était un truc que je voulais faire. J'avais fait justement mon premier stage de laboratoire que j'avais fait pendant mon externat, je l'avais fait à l'étranger, je l'avais fait à New York et j'avais adoré cette expérience.
Oh, génial.
Et puis j'avais vraiment eu toujours un peu une envie de partir à l'étranger, de vivre un peu voilà une vie enfin autre part. Et du coup, je me suis dit bon bah le Master 2 c'est l'occasion. Donc un jour je suis allée voir un de mes chefs de service et je lui ai dit bah voilà, moi je suis intéressée pour faire un Master 2, j'ai très envie de ça, mais je veux vraiment le faire à l'étranger, si possible en Amérique du Nord. Et est-ce que vous pouvez m'aider? Et donc bah là en fait j'en ai parlé même à plusieurs chefs de service qui étaient toujours un peu à la fois impressionnés, mais enfin dans le sens plus que c'était pas une requête qui était assez classique. Et surtout voilà, ils m'ont tout de suite un peu dit oh là, fais attention, c'est voilà, comme c'est pas classique, je suis pas sûre que ça va marcher. En général, on fait plutôt la thèse de sciences à l'étranger plutôt que le master 2. Mais d'accord. J'étais décidée, c'était comme ça. Et donc, du coup, j'ai contacté un laboratoire aux États-Unis qui m'a dit, en fait, moi, il n'y a aucun problème, mais il faut que tu aies un financement. Et en fait, c'est en recherche, oh. C'est le nerf de la guerre.
Ah,
quoi.
Bah, clairement.
C'est, il faut avoir de l'argent pour être payé. Il y a parfois des postes, des choses comme ça, mais c'est rare. Et en général, les laboratoires vont voilà, demander à ce qu'on postule à différentes bourses. Et donc, moi, on m'a dit, vraiment, il n'y a aucun problème. Tu peux venir, mais il faut que tu aies un financement pour te rémunérer pendant cette année-là. Et donc, avec l'aide de chef de service ici à Paris, j'ai créé des projets de bourse, bien sûr avec le laboratoire d'accueil aussi. Et j'ai eu la chance d'avoir une bourse qui m'a permis de partir. Je suis partie un peu moins d'un an parce qu'en termes des visas, c'était plus facile comme ça. Je suis partie en gros 7 mois aux
génial.
États-Unis, juste à côté de Washington. Dans un institut de recherche qui s'appelle le National Institute of Health, qui est une structure publique de recherche aux États-Unis. Et franchement, c'était une super expérience. C'était une expérience personnelle qui a été au final assez difficile puisque en fait, je suis partie toute seule et je venais de me marier juste avant de partir.
Ah, d'accord.
Et donc j'ai laissé mon mari qui lui a été assez cool. Il est resté tout seul dans notre appartement ici. Et puis moi, je suis partie toute seule. Pendant cette période-là, donc c'était pas facile parce que, en plus, j'étais plus âgée et je trouve que la capacité d'adaptation à ce genre de nouvelles situations, quand on vieillit, on est moins flexible qu'avant. Je regrette quand même pas du tout. Hein. C'était professionnellement, c'était génial. Ça m'a ouvert plein de portes après. J'ai rencontré plein de gens hyper intéressants et c'était vraiment exactement ce que je voulais. J'ai découvert ce que c'était de vivre aux États-Unis et c'était vraiment super. Et du coup, quand j'ai eu fini ce Master 2, je me suis tout de suite dit, ok, bah maintenant je veux faire une thèse de science, c'est sûr. Donc en fait, en médecine, on a la thèse d'exercice qui est inhérente aux études de médecine. Mm-hmm. Et si on a envie, on peut faire en fait un double cursus scientifique, c'est-à-dire qu'on peut décider de passer un double doctorat. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Donc maintenant, j'ai un doctorat en médecine qui est lié à mes études de médecine et j'ai un doctorat en sciences, moi mon doctorat est en sciences de la vie et de la santé et qui est vraiment voilà deux choses complètement différentes. J'ai vraiment deux diplômes indépendants et donc du coup j'ai tout de suite dit je veux faire une thèse de sciences. Les thèses de sciences en général ça dure 3 ans et du coup là par contre il n'était pas question de repartir 3 ans aux États-Unis. Mon mari m'a dit bon 7 mois c'est une chose,
c'était bien
3 ans ça en est quand même une autre j'ai cherché un peu autour de moi, j'ai tapé aux portes et j'ai dit voilà moi je veux faire une thèse de science, qui est prêt à me prendre. J'ai en master 2 j'ai appris à faire ça et celui qui est devenu mon directeur de thèse qui est quelqu'un qui a été super puisqu'en fait ça a mis un peu de temps au début mais à un moment il a dit ok bah banco très bien et ben moi je veux bien encadrer ta thèse de science, je veux bien que tu viennes dans notre laboratoire même si j'y étais pas passée avant en master 2, ce qui est aussi pas très classique, c'est-à-dire qu'en général on fait son master et on fait sa thèse au même endroit.
Tout au même endroit, d'accord.
Et moi du coup là j'arrivais à faire ma thèse en fait dans une structure complètement différente, mm-hmm, de mon master 2 et que du coup je connaissais pas du tout. Et c'était un pari pour moi parce que je connaissais pas la structure, mais c'était aussi un pari pour eux parce qu'ils savaient pas comment je travaillais, comment j'étais et si ça allait bien se passer. Donc ils me connaissaient parce que les structures de recherche sont souvent affiliées à des services cliniques. Et donc du coup, j'étais passée interne dans leur service, dans le service qui était attaché à cette unité de recherche. Donc ils me connaissaient un petit peu, en tout cas les médecins me connaissaient, mais vraiment le laboratoire en lui-même, les gens me connaissaient pas très bien, et puis surtout savaient pas comment je bossais tout ça. Donc du coup, c'était vraiment tous les deux une prise de risque, bon mesurée, mais en tout cas un moment de décider, on se fait confiance et on essaye en tout cas. Et donc là, comme pour le master 2, on demande des bourses et puis on croise les doigts pour les avoir. Parce que du coup, pour la thèse de sciences, pour ces 3 ans-là, il faut être financé. Et ça, c'est vraiment très chouette. C'est toujours des moments assez agréables. Il y en a que j'ai pas eu, mais j'ai fini par avoir une bourse pour ma première année, au moins pour la première année. Donc, je me suis lancée comme ça dans la thèse de sciences juste à la fin de mon internat. J'ai tout de suite fait la thèse de sciences. Et puis après, j'avais qu'un an de financé, mais après, j'ai fait d'autres demandes de bourse et j'ai pu avoir un financement pour la deuxième puis la troisième année, ce qui m'a permis vraiment de passer ces 3 ans hyper sereines, c'est-à-dire avec un salaire tout le temps. Et ça, c'est vraiment très important. C'est un moment, j'arrivais sur ma trentaine, donc même dans la vie perso, on se construit. Pendant ma thèse de sciences, j'ai eu un enfant. C'est hyper important d'avoir cette sécurité-là. Et moi, ça aide en tout cas d'avoir cette sécurité de « Ok, en fait, je suis financée et c'est bon, ça va bien se passer. Je peux au moins souffler de ce côté-là. »
Complètement. Ça représente du coup une charge de travail qui est énorme parce que donc, tu es dans la recherche, tu es dans ce laboratoire, mais pour eux, tu es là pour produire aussi des choses en dehors de la recherche. Et puis à côté de ça, tu as toujours l'internat qui court à côté. Comment tu arrives à cloisonner tout ça ?
Alors non, du coup, à chaque fois, pardon, si j'étais pas claire, à chaque fois, j'ai bloqué mon internat pendant un an. Donc ça, c'est ce qu'on a le droit. On a le droit de faire une pause.
D'accord.
Donc il y a des gens… et en fait, on a le droit de faire une pause non justifiée. C'est-à-dire qu'on n'est même pas obligé de dire pourquoi on arrête l'internat un an.
Ah, je savais pas du
tout. Donc moi, j'ai arrêté pour faire un master 2. Et donc c'est là où je suis partie à l'étranger et puis à la fin de mon inter et donc enfin voilà c'était vraiment une pause. Puis après quand je suis rentrée en France, j'ai repris la fin de mon internat. Il me restait un an à faire, donc j'ai fini cette année là et à la fin de mon année j'ai commencé la thèse de sciences.
D'accord.
Et là pareil, j'ai complètement arrêté mon activité clinique. J'ai pendant ces 3 ans là j'ai arrêté, enfin pas arrêté, mais j'étais plus médecin à proprement parler.
D'accord.
Mon activité principale c'était vraiment de faire de la recherche et d'être dans un laboratoire. La charge de travail dont tu parles, c'était vraiment les demandes de bourse.
Ouais,
parce que les demandes de bourse, en fait, on a toujours l'impression quand on le dit, oui, c'est les demandes de bourse. En fait, pour le coup, ça demande vraiment une charge de travail.
C'est des dossiers.
Et ça, je devais le faire pendant mon internat, pour le coup, puisque du coup, il faut le prévoir en amont. de commencer. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, je finissais mon internat et il était prévu que j'enchaîne directement sur ma thèse de sciences. Donc, il fallait, pendant mon internat, que je me mette à faire mes demandes de bourse, que j'écrive les projets. Donc, c'est le rôle du directeur de thèse et le directeur de Master 2 de nous aider à écrire ces projets. Mais il faut quand même assurer une certaine partie du travail. Et ça, c'est le soir, le week-end. C'est vraiment du travail en plus, quoi. Et puis, tout ça, forcément, dans la vie, tombe toujours au même moment. C'est-à-dire qu'en même temps, il fallait que je passe ma thèse de médecine. Donc, j'ai dû travailler ma thèse de médecine, la soutenir, la préparer. Et donc, tout ça tombe toujours un peu en même temps. Donc, on se retrouve sur des grosses périodes où on a plein de trucs à faire. Et puis, la journée, on est interne à l'hôpital. Donc là, il faut s'occuper des patients. Et donc, on n'a pas du tout le temps de se poser pendant 4 heures pour écrire un projet, écrire sa thèse. Donc, tout ça, c'est à côté. Donc, c'est le soir, le week-end. Et donc, pour le coup, ça, c'est vraiment, en tout cas, moi, c'est dans tout ce process et dans toute cette, dans tout mon parcours, c'est les projets de bourse, c'est vraiment mon point noir. C'est-à-dire que je trouve ça hyper dur. Je trouve que c'est hyper dur parce qu'il faut se vendre, il faut défendre son projet, il faut défendre son bout de gras, comme on dit. Et c'est toujours hyper dur parce que quand on n'en a pas, on les a pas. En fait, c'est tout un travail qu'on a fait pour rien parce que, en fait, et c'est vraiment on-off, quoi. Tu reçois le mail, vous n'êtes pas sélectionné, merci, mais bon courage pour la suite, quoi. Et donc là, en fait, c'est 4 jours de travail où on se dit, c'était vraiment pour rien, quoi. Je l'ai pas eu. Donc, moi, j'ai eu de la chance, j'en ai eu, hein. Donc, ce qui m'a permis de faire ensuite la thèse de sciences, mais c'est quand même vraiment difficile, quoi. Et moi, ça, c'est vraiment un truc moralement, qui est vraiment dur, quoi. À chaque fois, on met tout son cœur dans son projet. En plus, il faut toujours mettre son CV. Donc, quelque part, on se vend soi-même aussi. Donc, quand on a le rejet, c'est vraiment un peu souvent, je dis, c'est comme une rupture, quoi. Il faut l'encaisser, dire, OK, bon, très bien. C'est pas moi, c'est eux. Vraiment, tu vois, des trucs un peu comme ça, quoi. Il faut rebondir, quoi, parce qu'il faut pas se dire, OK, je l'ai pas eu, j'abandonne, tant pis, c'est fini. Il faut essayer de vraiment faire la part des choses et dire, OK, c'est pas grave, je passe à autre chose, j'en demande une autre, on va demander les autres, et puis les autres, ça va marcher. Et ça, vraiment, c'est, pour moi, c'est encore maintenant, c'est vraiment le truc le plus difficile, quoi. Accepter, ces échecs-là, alors qu'on a mis beaucoup d'énergie dans l'écriture d'un projet, c'est vraiment très difficile, quoi.
Et c'est une demande de financement par organisme. Enfin, je veux dire, il n'y a rien de centralisé dans tout ça. Tu dois faire un dossier par demande.
Exactement,
quoi.
C'est ça. Et puis alors, des fois qu'il y aurait une uniformité dans les projets.
Penses-tu ?
Non, hein. Tout le monde a des envies différentes. Donc, c'est soit limité en 5 pages. Donc, des fois, il n'y a pas de limite en termes de taille. Bon, il y a quand même souvent une limite, par exemple, d'une dizaine de pages, le CV, la liste des publications scientifiques, tout le monde a des envies différentes et il faut bien sûr coller exactement aux consignes qui sont données, donc même, en termes d'interligne, de mise en page et tout ça, parce que eux, et c'est bien normal, ils ont tellement de demandes que si on colle pas aux critères qui ont été donnés, en fait, on est tout de suite éliminé. Mmh. Et ça peut paraître injuste, mais en fait, c'est complètement normal. C'est-à-dire que eux, ils disent, nous, on a émis ces critères-là. Si vous pouvez pas les suivre, nous, on a déjà tellement de demandes qu'on va retenir les dossiers des gens qui ont bien suivi ces critères-là.
Ouais, bien sûr.
Et du coup, ça fait qu'à chaque fois qu'on resoumet une bourse, c'est reparti. Il faut remettre en page, vérifier toutes les consignes, vérifier les documents qui sont demandés, tout ça. Et puis ça, c'est vraiment beaucoup de travail, quoi. Enfin, honnêtement, je l'ai déjà dit 3 fois, je sais, je me répète, mais pour moi, c'est vraiment ce que je trouve qui est le plus chronophage et qui est le plus dur parce qu'on ne sait pas quelle va être l'issue. Et c'est travailler vraiment en faisant un pari de j'espère que je l'aurai, mais en fait, j'en suis pas si sûre. Et si je ne l'ai pas, il va quand même falloir continuer, quoi.
Mmh. Et quand tu parles de se vendre, en fait, l'idée, c'est quoi? C'est de dire à l'organisme, voilà ce que moi, je vais pouvoir vous apporter pendant toutes ces années. Voilà vers quoi je voudrais tendre, ou dans quel domaine je voudrais rechercher, comment ça se présente, c'est ça?
Exactement, c'est de dire, moi mon parcours, en l'occurrence ces demandes de financement, c'est vraiment pour les parcours, pour le côté scientifique, hein, donc la recherche, donc c'est vraiment de dire aux organismes qui vont financer. Donc, en fait, ils vont donner de l'argent au laboratoire de recherche qui nous accueille et ils vont dire, nous, on vous fait confiance, on vous donne cet argent, donc il faut qu'on soit un peu sûr de ce que vous allez faire.
Bien sûr.
En fait, c'est un peu, j'ai pas envie de dire une histoire de rentabilité parce que pas vraiment. C'est plus, voilà, être sûr, bah, en fait, vous allez dans ce laboratoire de recherche, mais c'est pas juste comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un projet qui tient la route, vous avez un encadrement qui tient la route, et aussi cette recherche, elle s'inscrit dans un projet professionnel qui tient la route, quoi. Donc c'est vraiment, enfin par exemple, en France, on va dire l'organisme qui chapeaute un peu la majorité des instituts de recherche, pas tous, il y a plusieurs de ces organismes. Moi, je vais parler de celui que je connais parce que c'est celui dont j'ai dépendu pendant ma thèse de sciences, qui est l'INSERM, donc l'Institut National de Recherche. Et qui va superviser plein de laboratoires de recherche. Et donc, eux, ils vont financer, notamment, ils ont des financements qui sont dédiés pour les médecins, mais pour dire, en fait, nous, on vous donne deux ou parfois un peu plus d'argent pour vous financer pendant 2 ans, pardon, c'était pas clair, mais en gros, ils vous donnent 2 ans de financement pour dire, vous pouvez arrêter votre activité médicale pour vous dédier pendant 2 ans à temps plein à de la recherche.
Ah, très bien.
Mais donc, pour eux, c'est une ligne budgétaire et qu'il va falloir... en fait, il faut être sûr de la donner aux... J'ai pas envie de dire aux bonnes personnes parce qu'il n'y a pas de mauvaises personnes, mais voilà, il faut être sûr que ça soit des projets qui tiennent la route.
Bien sûr.
Et aussi que la personne, elle ne s'engage pas dans un laboratoire pour se rendre compte au bout d'un an, en fait, le projet, il ne tient pas vraiment la route, ça ne marche pas. Et donc ça, c'est vraiment pour ça qu'il faut construire son dossier, sa demande de financement de manière hyper aboutie, parce que les gens qui vous évaluent, on ne peut pas les bluffer, quoi. Eux, ils savent lire entre les lignes, ils savent se rendre compte qu'est-ce qu'il y a un projet qui est porteur ou qui va peut-être patauger un peu pendant un an. Et vraiment, on ne peut pas bluffer, quoi. C'est vraiment c'est des gens qui sont experts, c'est des chercheurs qui ont des années d'expérience qui vont évaluer les dossiers. Et donc, en fait, c'est des critères... ils ont des grilles, c'est complètement codifié, mais du coup, eux, ils savent dans la grille, par exemple, ils vont dire, l'impact du projet en termes de scientifique et médical, eux, ils vont pouvoir dire, en fait, ce projet, c'est à la fois très intéressant, mais l'impact, il est quand même très limité. Mmh. Là, c'est pas assez abouti, il faut que ça soit revu et tout ça, quoi. Donc c'est vraiment, il faut vendre ça, il faut vendre aussi son projet professionnel, c'est-à-dire,
bien sûr,
moi je m'arrête 3 ans pour faire une thèse de sciences, mais c'est pas parce que c'est ma lubie du moment, et
c'est
en
ça,
fait c'est
ouais.
Voilà, faut vraiment
ça
dire
s'inscrit
j'ai un
dans
engagement
autre chose,
Exactement, j'ai envie ensuite de faire de la recherche, j'ai envie de faire ça, j'ai déjà fait un master 2 avant, j'ai déjà tout un parcours où je me suis intéressée à la recherche, et donc du coup donner des financements, et en fait c'est valable pour les médecins qui font de la recherche, mais en fait c'est valable pour tous les gens qui font de la recherche, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on veut faire de la recherche, il va falloir, en tout cas dans la majorité des cas, demander des financements, demander à des organismes de financer cette recherche, et c'est toujours les mêmes process, quoi. C'est de préparer des projets et de les présenter, et en espérant d'être jugé favorablement.
Je renvoie les auditeurs vers l'épisode 34 qui était avec Océane qui travaille dans la recherche, alors dans un autre domaine que toi, elle est dans l'immunologie, et puis une grande partie de sa carrière s'est faite outre-Atlantique, mais c'est un sujet qui est passionnant, et elle a abordé justement la problématique des bourses, des financements, etc. Et oui, c'est sûr que pour eux, c'est presque un pari sur l'avenir, mais du coup, toi, quel était ton objectif à ce moment-là? Tu savais déjà que t'envisagerais une carrière avec cette double casquette entre médecine, recherche, comment ça se présentait?
Ouais, ouais.
Tu savais déjà?
Alors, en fait, je sais... tout le monde... en fait, je sais pas. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours fait, et c'est un peu un truc qu'on m'a un jour conseillé. C'est mon directeur de thèse qui m'a dit ça. Il m'a dit, le Master 2, c'est une chose, c'est 1 an. La thèse, c'est un autre pas, c'est 3 ans. Fais une thèse si t'as envie de faire une thèse. Ne fais pas une thèse pour... En fait, en France, ce double doctorat, il est obligatoire pour les médecins qui veulent être ce qu'on appelle hospitalo-universitaires, c'est-à-dire des médecins qui vont travailler dans des services hospitaliers qui dépendent d'un centre hospitalier universitaire et qui vont être à la fois donc payés par l'hôpital, payés par la faculté, et qui vont avoir en fait un rôle d'enseignement, de recherche et d'activité clinique.
D'accord.
Ces médecins-là, c'est ce qu'on appelle les... en gros, le statut le plus haut, c'est les praticiens... professeurs des universités, praticiens hospitaliers.
D'accord.
Et donc, c'est les PUPH. J'espère que je ne me trompe pas dans l'intitulé. Je crois pas.
je ne peux pas te dire.
Et du coup, en fait, ces PUPH, ils sont dépendants de l'université qui chapeaute le centre hospitalier universitaire et dépendants de la structure hospitalière en elle-même. Et donc, pour accéder à ces postes-là, le double doctorat, donc le doctorat médical et ce qu'on appelle le doctorat de sciences, c'est essentiel. Enfin, il faut l'avoir, quoi. Okay. C'est pas possible d'acquérir ces postes-là si on n'a pas une thèse de sciences. Et donc, forcément, la majorité des médecins qui s'orientent vers les thèses de sciences et qui décident d'avoir ce double doctorat ont souvent dans la tête quand même, derrière, c'est parce que c'est ce genre de poste qui m'intéresse. Mmh. Alors, moi, j'ai pas forcément le poste qui m'intéresse, enfin qui m'intéressait à la base, mais je savais que ce que je voulais, c'était faire de la recherche, ça c'était assez sûr, et pouvoir faire de la recherche un peu tout au long de ma carrière. J'aime bien l'enseignement, j'aime bien l'enseignement aux étudiants en médecine, et surtout, je voulais travailler dans des services qui s'occupent, je l'ai dit un peu plus tôt, mais des maladies rares endocriniennes, et ça, en fait, c'est que les services hospitalo-universitaires. En fait, c'est des maladies qui sont rares, qui ont besoin d'être vues dans des centres de référence, et ces centres de référence, ils sont dans les centres hospitalo-universitaires français. Et du coup, pour avoir des postes là-dedans, il faut quand même avoir, je vais dire, les postes sont chers parce que je sais pas si un petit peu peut-être d'une certaine façon, mais en fait, c'est juste que, forcément, les gens qui vont vers ces services-là, ils ont une valence d'avoir envie de faire de la recherche, d'avoir envie de s'occuper de maladies rares, d'avoir envie d'enseigner aux autres. Et donc, voilà. Donc, moi, je savais pas trop, derrière la thèse, j'avais pas un projet, j'étais pas, je veux absolument faire que ça. Mais je savais que je voulais faire de la recherche. Donc, je me suis dit, vas-y, j'y vais. Et quand mon chef m'a dit, fais une thèse si t'as envie de faire une thèse, parce que sinon, c'est trop d'investissement. C'est-à-dire que si tu la fais juste parce que c'est la petite carte d'entrée à ces postes-là, en fait, tu risques pas de bien vivre ces années-là, parce que c'est des années, on en reparlera après, je pense, mais qui sont hyper dures. Moi, franchement, c'était 3 ans qui étaient très durs, et alors que j'étais dans une super structure et tout ça, mais c'est un engagement qui est quotidien, qui est tout le temps. Il faut être prêt à travailler plus que beaucoup d'autres de gens la majorité des gens à cet âge-là, quoi, je veux dire, à âge égal. Moi, j'ai beaucoup travaillé plus que mes copines ou des choses comme ça, j'ai l'impression, en tout cas. Et donc, vraiment, il faut, si je peux donner un conseil, mais mon conseil, c'est il faut pas du tout se lancer dans une thèse de science si c'est juste la carte pour accéder à quelque chose d'autre, quoi. Il faut vraiment avoir envie d'y aller, faire de la recherche, et de toute façon, je pense que finalement tout le monde a toujours un peu une envie, quoi. Donc, c'est suffisamment difficile pour qu'il faut qu'il y ait quand même plein de choses qui nous donnent envie, quoi. Mmh. En fait, c'est que ça soit pas que juste on m'a dit que pour avoir un poste universitaire à l'hôpital, il fallait une thèse de sciences, donc j'ai fait une thèse de sciences. Moi, c'était j'ai envie de pouvoir passer 3 ans à m'intéresser à un sujet parce que. Et c'est la beauté de la thèse de science, selon moi. C'est-à-dire qu'en fait, on est payé pour réfléchir, quoi. Et se poser des questions, lire des articles, réfléchir à quelque chose, apprendre, mais dans un sujet qui nous intéresse. Donc, c'est là où, en fait, contrairement aux études de médecine, par exemple, où on nous demande d'apprendre un éventail de choses qui est très large et des choses qui vont nous intéresser plus ou moins, en thèse de science, on a un sujet qu'on a choisi, qui nous intéresse. Et là, c'est 3 ans où, en fait, on va essayer de connaître le plus de choses sur ce sujet-là et d'en découvrir, encore plus, quoi. Et puis moi, j'ai adoré ça. C'est une période où on va apprendre plein de nouvelles choses. Donc, on apprend la culture cellulaire, on apprend plein de choses qu'on n'a pas idée de ce qui se passe dans un laboratoire de recherche et des nouvelles choses. Et ça, je trouve que l'apprentissage, quand on vieillit, on est beaucoup plus reconnaissant de ça. Je pense que quand on est tous jeunes, les études, tout ça, c'est un peu une espèce de case obligatoire. Quand on a la trentaine, avoir cette opportunité de pouvoir apprendre autant de choses à son rythme, c'est vraiment, c'est une chance, quoi. Moi, je regrette bien sûr pas du tout, mais surtout je suis hyper reconnaissante d'avoir eu ces 3 ans-là. Ça arrivait au moment du Covid. En fait, je me suis retrouvée ma 2e année de thèse, c'était au moment du Covid. Et pendant le premier confinement, tous les laboratoires de recherche ont fermé. En fait, on nous a demandé à tous d'arrêter nos activités. Et moi, j'étais médecin, j'avais fini mon internat, j'avais passé ma thèse. Donc, tu te doutes bien de ce qui s'est passé. On m'a dit, en fait, il va falloir aller à l'hôpital aider parce que là, il n'est pas question de rester chez soi en télétravail alors que tu as les compétences médicales.
Ah, ouais.
Et tu vois, moi, là, je me suis sentie privée. Tu vois, vraiment, c'était horrible, quoi. Je me suis sentie privée de cette opportunité-là. On ne savait pas quand ça allait rouvrir. Et c'est vraiment là où j'ai pris la mesure la recherche, je pourrais pas vivre sans
la recherche
d'une certaine façon, quoi. Ouais, exactement. C'est juste être médecin à l'hôpital, juste médecin, ça me suffit pas. Moi, j'ai vraiment besoin d'autre chose. J'ai besoin intellectuellement de me poser des questions, de réfléchir. Et bien que ça soit difficile, j'avais vraiment envie de toujours garder ça. Et quand j'ai eu fini ma thèse de sciences, le projet, c'était de revenir à une activité hospitalière, c'est-à-dire de devenir chef de clinique à l'hôpital, dans le service hospitalier qui était attaché à mon laboratoire de recherche.
D'accord, très bien.
C'était ça ce qui était prévu, c'était que je m'arrête 3 ans et qu'au bout de ces 3 ans, je revienne complètement à mon activité hospitalière.
D'accord. Et c'est ce qui s'est passé ?
Et en gros… pas trop, parce que du coup, ces 3 ans, ça s'est tellement bien passé. Je pense que j'ai eu la chance d'avoir un directeur de recherche avec qui, on s'est bien entendu. Je pense qu'on travaille assez bien ensemble. En tout cas, c'est l'impression que moi, j'en ai. C'est-à-dire que je pense qu'il m'aide beaucoup sur les points où moi, je pêche. Je manque parfois beaucoup de confiance en moi. J'ai parfois du mal à être sûre de moi. Et lui, m'a vachement valorisée là-dedans. En disant, par exemple, typiquement, quand on parlait des demandes de bourse, il faut se vendre. Moi, j'ai quand même un parcours qui est un peu atypique, hein. Je suis partie à l'étranger, c'est pas classique. Et même, quoi qu'il en soit, faire de la recherche quand on est médecin, c'est pas forcément classique. Et j'avais toujours un peu du mal. Et lui, il me boostait vachement là-dessus. Et donc, à la fin de ma thèse de sciences, quand je l'ai soutenue, j'ai vu un appel d'offres où j'ai vu un financement pour un poste où, en gros, donc l'INSERM allait payer 50% de mon temps à l'hôpital pour que je puisse me détacher 50% et faire de la recherche.
Oh,
c'est-à-dire
génial.
Qu'en gros, l'INSERM paye l'hôpital et dit, nous, on vous
récupère.
Donne l'argent pour que vous puissiez engager quelqu'un d'autre et pour qu'elle, elle puisse continuer en post-doctorat, donc vu qu'on a fini la thèse de sciences, en post-doctorat vers autre chose, quoi.
D'accord.
Et, vers de la recherche, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, hop, t'es détaché de ton temps, puis le 50%, tu vas au laboratoire, quoi. Et donc, j'ai postulé à ce poste-là, qui sont des postes qui sont très, très prestigieux. Ça a été pareil, de nouveau, la demande de bourse, me vends,
ça ne s'arrête
je
jamais.
Monte un projet. Exactement, c'est ça, hein, ça ne s'arrête jamais. Et j'ai eu beaucoup de chance, petit twist à la fin, puisque j'ai été jusqu'aux oraux. Donc, c'est une présélection au dossier et j'ai été à l'oral. Et pour l'oral, je m'en rappelle, hein, c'était devant… c'était en visio parce qu'il se trouve qu'à ce moment-là, j'étais en congrès à l'étranger pour partager mes résultats de thèse en congrès puisque une partie de la recherche, c'est aussi de diffuser ce qu'on a, entre guillemets, découvert.
Bien sûr.
Et donc, j'étais en congrès et donc, je fais ma visio et là, j'allume l'écran qui s'ouvre avec les gens et je reconnais la liste des noms des membres du jury. Dont certains sont des gens qui étaient par exemple des membres du conseil scientifique pendant le Covid, des hauts noms de la recherche.
Ou
donc
la
autant
pression,
dire que j'en donnais pas large du tout, j'étais trop stressée. J'ai essayé de faire vraiment du mieux que je pouvais, mais je n'ai pas été retenue. Il y avait 4 candidats qui étaient finalement sélectionnés à la fin. Je pense qu'on était 7 ou 8 à aller à l'oral et je ne l'ai pas eu. Et là, franchement, j'étais vraiment déçue. Et mon directeur de thèse m'a dit, écoute, envoie un mail au doyen de la faculté et dis-lui que tu l'as pas eu Et on va essayer de voir si c'est quand même pas possible de faire quelque chose. Et en fait, le doyen a été hypersensible, j'en sais rien en fait, c'est comme ça que je l'interprète, mais en tout cas a été sensible au projet et a dit ok, eh ben c'est d'accord, on va vous donner un poste de chef de clinique en plus. Comme ça, il y aura une chef de clinique à temps plein et une chef de clinique qui sera à mi-temps et qui pourra du coup être détachée 50% dans le laboratoire de recherche.
Ah, mais génial.
Et donc malgré que j'avais pas eu ce poste voilà officiel, eh ben j'ai ça m'a quand même permis de continuer ça et franchement j'étais super contente parce qu'en plus pendant la thèse de sciences, tu vois, t'es 3 ans dédiés à ta thématique. T'es dans ton laboratoire, t'es ton projet, mais c'est ton bébé, quoi. Enfin, franchement, t'y es attaché, mais plus que tout. Et en fait, on te dit, bah, à la fin de la thèse, allez hop, c'est fini. Quelqu'un d'autre va probablement venir au laboratoire. En gros. Tu pourras, enfin, souvent, on garde un petit peu, voilà, pendant plusieurs mois, peut-être même plusieurs années, un petit peu, on peut aider, continuer de faire des petites choses, mais on peut pas être au laboratoire à maniper et tout ça, quoi. Et quand, l'idée de perdre tout ça, c'était vraiment hyper difficile, quoi. Et donc, quand ils m'ont dit, OK, c'est bon, il y a le deuxième poste, et malgré que t'aies pas eu ce poste, pour lequel t'avais postulé, bah, tu l'as. Franchement, j'ai respiré, j'ai dit ok, bon bah trop cool, je vais pouvoir continuer pendant au moins mes 2 ans de clinica à faire de la recherche. Mon directeur de thèse, qui du coup allait devenir du coup mon directeur de post-doctorat, m'a dit bah écoute, on va prendre une étudiante en master 2, je te propose de t'impliquer dans son encadrement, d'aider à l'encadrer, lui montrer des choses, lui montrer comment manipuler. Donc je suis pas à temps plein dans le laboratoire, mais du coup il y a d'autres gens qui vont aussi la former. Moi voilà, ça allait être une partie de mes missions de post-doctorat d'encadrer quelqu'un au laboratoire. Et j'étais très flattée, c'était une marque de confiance. J'étais très touchée qu'on me dise bah ok, tu as en tout cas un peu de bagage, si je puis dire, scientifique pour aider à l'encadrement de quelqu'un et monter ce projet. Pareil, là aussi, il a fallu demander les bourses de la Master 2. Donc, ça recommence. On aide l'étudiante à demander ses financements.
L'histoire se répète.
Et on monte son projet. Exactement, c'est toujours pareil. Et donc, ça, j'ai commencé maintenant depuis 6 mois ce poste à mi-temps entre les deux. Quoi.
Très bien. Et alors, je suis curieuse, mais quel était le thème de ta thèse de science du coup?
Essaye
de nous vulgariser ça.
Ouais, je vais essayer. Ouais. Et ben alors en fait j'ai une petite je sais pas si c'est une anecdote. J'ai commencé ma thèse de sciences. Moi, mon directeur de thèse, il m'avait parlé d'un projet où l'idée c'est son axe de recherche et c'est la thématique d'une partie du laboratoire dans lequel je suis, c'est d'essayer de comprendre pourquoi parfois se développent dans certaines glandes des tumeurs qui vont se mettre à sécréter des hormones de manière excessive. Donc c'est des syndromes d'hypersécrétion hormonale liés à des tumeurs qu'on appelle des tumeurs neuroendocrines. Et donc le laboratoire et mon directeur de thèse plus particulièrement s'intéressaient notamment aux tumeurs de la glande hypophysaire, qui est donc une glande qui se situe derrière les yeux et qui chapeaute un peu toutes les autres glandes du corps humain. Et donc, j'ai commencé ma thèse, et c'était ça le projet, c'était de travailler là-dessus et d'essayer de comprendre en fait les mécanismes qui favorisent le développement de ces tumeurs et qui favorisent parfois leur profil, elles peuvent être plus ou moins agressives. Et donc, c'était ça initialement qui était mon projet de thèse. Et moi, en Master 2, je m'étais beaucoup intéressée à la génétique. J'aimais bien les nouvelles techniques d'analyse génétique, c'est-à-dire que en gros la génétique humaine a fait d'immenses progrès sur les 15-20 dernières années et du coup ça nous a permis en fait de beaucoup plus comprendre comment les maladies se développaient, parce que du coup de pouvoir étudier la génétique de ces pathologies. Et un jour mon directeur de thèse me dit écoute, si tu as envie en plus de ton sujet de thèse et que tu as le temps, tu peux aussi t'intéresser à un patient qui avait une forme particulière d'une tumeur, cette fois non pas de l'hypophyse, mais de la glande surrénale. Il m'a dit, est-ce que tu veux t'intéresser à l'ADN de ce patient pour essayer de comprendre qu'est-ce qui a favorisé la maladie. Et là, en fait... Enfin, on me l'a dit à peu près 50 fois. En fait, ça, je pense que ça n'arrive qu'une fois dans la carrière de quelqu'un. Donc, on avait séquencé tous ces gènes. Et je regarde, on utilise en fait des algorithmes bioinformatiques qui permettent de filtrer, parce qu'il y a tellement de gènes, il y a tellement de choses qu'il faut quand même filtrer un peu les données, quoi. Et j'utilise cet algorithme, je réfléchis un peu autour de tout ça, et je sors une liste de gènes, et puis j'arrive à croire, enfin en gros, je fais des analyses bioinformatiques qui me permettent d'avoir un peu une liste très courte, et là, en fait, je tombe sur un gène, je regarde un petit peu à quoi il sert ce gène-là, et en fait, c'était un peu le bingo, quoi, parce que en fait, c'était en effet le gène qui causait cette maladie. Et mon chef, quand je lui envoie, je me rappellerai toujours, le mail où je lui dis, écoute, je suis tombée sur ce gène, je trouve ça hyper intéressant. Je me demande s'il faut pas creuser. Et donc tout de suite, lui il me répond, il dit, oui, c'est possible. Donc il met deux trois autres personnes en copie et tout le monde se met avec leur expérience, tout le monde regarde un petit peu et dit oui, c'est pas idiot, c'est possible que ce soit ça. C'était à la fois je pense un peu une partie de chance, parce que qu'est-ce qui a fait que j'ai vu ce gène-là dans la liste, et en plus c'était le premier que j'ai regardé, donc j'ai regardé le premier et en fait c'était tout de suite, c'est l'avenir me le dira, mais c'était ça. Et donc en fait là, mon directeur de thèse, il m'a dit, écoute, là on va essayer de continuer les deux projets en parallèle, mais là il va falloir qu'on creuse là-dedans. Et donc finalement la suite de ma thèse, ça a été d'étudier d'autres patients qui avaient la même maladie et de voir s'ils avaient des mutations sur le même gène pour confirmer en fait que c'était bien ce gène-là qui était qui favorisait le développement de cette maladie endocrinienne. Et puis c'est encore une fois, je pense que ça arrivera qu'une seule fois dans ma carrière. C'était 100%, quoi. C'est-à-dire qu'on étudiait un nouveau patient et hop, il avait aussi une mutation dans ce gène-là.
Incroyable.
Et donc, du coup, la suite de mon travail de thèse, ça a été de prouver comment ce gène développait cette maladie. Et puis, à la fois en utilisant des techniques, en étude de la culture cellulaire et des choses comme ça. Et puis ensuite, de publier ces travaux-là. Et donc, ça a été finalement, ma thèse, ça a été ça. J'ai réussi à un peu garder mon premier projet à côté et de continuer de le faire avancer. Et donc, j'ai construit une thèse qui était un peu originale, pas vraiment, mais en fait, j'ai fait une thèse qui avait deux grandes parties. La partie 1 qui était mon premier projet, et puis la partie 2 qui était mon deuxième projet.
Voilà. Quand tu parles de culture cellulaire, du coup, je suis curieuse, mais c'est de la recherche que tu vas faire sur des biopsies, par exemple, qui étaient faites auprès de ce premier patient dont tu parlais. Est-ce que c'est des corps qui sont donnés à la science après le décès? Comment ça se passe?
Alors non, il y a un peu de tout. Donc on travaille sur par exemple des biopsies où les patients qui ont eu des chirurgies, leur tissu qui a été enlevé, il est analysé par les anatomopathologistes pour poser le diagnostic. Et puis ensuite. Il est en général conservé. Mmh. Nous, en tant que chercheurs, surtout quand c'est des maladies rares, parce que là, en l'occurrence, je te parle de ça, les gens se disent, elle a trouvé une nouvelle maladie. Bon, c'est des maladies qui sont rarissimes.
Le progrès est énorme.
C'est à mettre en perspective.
Ouais,
exactement. C'est-à-dire que, en fait, souvent, c'est des maladies rares, mais parfois, les implications sont quand même un peu plus larges que juste cette maladie rare. Et donc, en fait, ce qui s'est vraiment passé, c'est qu'après, on va rechercher ces patients qui ont été opérés, et puis on va essayer de récupérer un échantillon de leur tissu et on va l'étudier. Et donc ça, c'est une partie du travail qui peut paraître aussi très très simple, mais en fait, la France est heureusement a une législation qui est très avancée et on peut pas faire n'importe quoi. Donc on peut pas aller demander au service d'anapath, donnez-moi un petit bout de ce patient qui a été opéré il y a 5 ans, c'est interdit en fait de faire ça. Donc on est obligé d'avoir bien sûr son consentement. Donc du coup, il a fallu faire un petit peu un travail parfois de recontacter des gens qui avaient été opérés 10-15 ans en arrière et vérifier qu'ils étaient bien OK. Alors c'est toujours un peu marrant parce que la législation en France est faite comme ça et bien heureusement, mais les gens en fait, ils s'en fichent un peu, quoi. On les appelle, ils disent si ce truc il est dans vos congèles depuis dans les congèles du service d'anapath depuis des tant d'années, il y a aucun problème.
Puis si ça peut faire avancer la science,
les gens sont en général toujours très très sympa et disent il y a pas de problème. Et puis après, il y a de la culture cellulaire. Donc ça, en fait, il y a des lignées cellulaires qui existent, qui sont en fait des cellules qu'on va cultiver, qui sont souvent issus de soit de tumeurs d'un patient, mais voilà, il y a 50 ans et qui ont été entretenus,
ah,
soit issus de tumeurs, par exemple, qui ont été développées dans des animaux, soit c'est des cellules qui ont été développées par des ingénieurs, enfin par des équipes de recherche, hein, qui eux ont décidé, on va essayer de faire des cultures de cellules.
Les fameux
et
ingénieurs.
Donc là, on va travailler là-dessus. Comment ?
Les fameux
ouais,
ingénieurs.
Oui, voilà, c'est ça, exactement. C'était ça, ingénieur.
Donc en fait, maintenant, tu vois.
Et du coup, en gros, voilà, des gens qui vont, enfin, voilà, des chercheurs, des gens qui vont développer des lignées cellulaires et sur lesquelles on va pouvoir travailler. Et donc, en fait, moi, bah, voilà, une partie de ma thèse, ça a été, en fait, d'utiliser différentes techniques. Donc, par exemple, les gens entendent parler, parce que c'était un prix Nobel il y a quelques années, là, du CRISPR-Cas9, qui est une technique d'édition du génome. Et donc, bah, moi, des trucs que dans notre thèse, dans ma thèse, ça a été d'essayer, enfin, d'utiliser des cellules pour lesquelles on avait coupé le gène, qui m'intéressait et de voir qu'est-ce qui se passait quoi voilà dans ces cellules là.
Hyper donc, intéressant.
Ça a été voilà c'est enfin ça a été un gros travail de 3 ans. Alors après bien sûr hein, il est absolument pas question pour moi de dire que j'ai fait ça toute seule, c'est pas du tout le cas. La recherche c'est un travail d'équipe hein, donc on utilise voilà des partenariats avec d'autres équipes de recherche. On est vraiment plusieurs. Moi j'avais quelques compétences en génétique mais je connaissais pas tout, donc il a fallu qu'il y ait des gens qui soient bien plus aguerris que moi qui m'aide en fait à l'analyse génétique et en fait tout ça finalement ça finit par être voilà une grande équipe qui va se former autour de ce projet, qui va essayer de le faire avancer et voilà le thésard là-dedans a un rôle qui est parfois voilà d'être la petite main, de coordonner un petit peu tout le monde. C'est vraiment un truc qui était super de faire partie de toute cette équipe, c'était extrêmement valorisant et puis en plus à la fin en fait on travaille pour la publication de ces résultats donc dans un journal scientifique et bah voilà l'issue a été assez chouette, on a publié dans un très grand journal de notre spécialité. Donc c'était voilà, c'est hyper valorisant, ah, c'est super. Vraiment des moments donc c'est beaucoup de travail mais qui à la fin ont une super issue. Ça a permis que du coup ma thèse elle bah voilà, ça soit une thèse qui était belle, qui était enfin en tout cas moi je trouve hein, c'est très subjectif hein, c'est moi qui l'ai écrite, donc forcément je l'ai trouvé super hein.
Mais si elle est magnifique. Non,
et du coup voilà, d'avoir en tout cas des beaux résultats et du coup enfin voilà, c'est toujours hyper valorisant en recherche et donc du coup je pense que c'est aussi ça qui m'a donné envie de continuer de la recherche parce que ça s'était tellement bien passé, c'était tellement chouette de voir en fait comment ça se passe quand ça se passe bien.
Quand ça marche bien.
Que c'était vraiment chouette quoi. Alors après je rassure tout le monde, j'ai eu aussi plein de désillusions, enfin voilà des
bien
moments
sûr,
où il y a
sûr.
Des manips de plusieurs semaines où on travaille pendant 2 mois sur une manip cellulaire pour au final que tout que rien ne marche à la fin, que les résultats soient pas comme on veut, mais même pas comme on veut, genre en fait c'est autre chose, c'est juste en fait c'est pas même pas interprétable quoi, et donc c'est 2 mois de travail où bah en fait allez hop on recommence, on continue, et donc voilà, donc il y a vraiment en fait un jour j'avais vu une image sur Instagram de la thèse, c'est vraiment des hauts et des
bas quoi.
Et des très très hauts, des très très bas,
ouais.
Et il faut voilà toujours continuer à travailler, c'est pour ça que je disais il faut pas se lancer dans une thèse si c'est pas un truc qu'on a envie de faire, parce que voilà moi il y a des moments voilà où ma manip avait foiré, ou parfois moi j'avais raté un truc et je m'en voulais tellement, enfin en fait ça devient un projet qu'on prend tellement à cœur, je me mettais enfin voilà à pleurer le soir, je rentrais chez moi et je disais à mon mari mais c'est trop dur, il fallait que je retravaille le soir en plus, enfin voilà, j'ai eu un enfant au milieu de toute cette aventure et du coup bah en fait il fallait aussi que bah je m'en occupe quand même, et du coup bah voilà je le couchais, au soir je retravaillais parce que bah il fallait qu'on avance vite, qu'on avance sur le projet, et tout ça c'est voilà, c'est vraiment beaucoup d'engagement et donc il faut être prêt à travailler quoi, ça c'est par contre ça c'est sûr, la thèse c'est beaucoup beaucoup de travail, c'est aussi accepter de à plus que 30 ans un jour se reposer pour écrire ce manuscrit de thèse. Moi ma thèse elle fait à peu près je sais pas genre 150 pages je crois. Donc il faut voilà, il faut se replonger dans le bachotage pur et dur, se mettre devant son ordi et écrire quoi, écrire ce qu'on a trouvé, relire des articles, se replonger dedans, et ça c'est voilà, c'est pas facile quoi. Franchement
j'imagine.
Voilà. Donc mais bon, en tout cas le résultat était super et je j'ai eu beaucoup de chance. Franchement, j'ai vraiment eu de la chance dans ma thèse que ça se passe aussi bien. En plus, j'étais dans une super équipe localement. On avait plein de partenaires dans d'autres endroits qui étaient aussi super, mais localement, je suis tombée dans un laboratoire qui, je leur ai dit de surtout pas écouter ce podcast parce que je suis toujours un peu timide parfois, mais je sais qu'ils vont l'écouter. Voilà, mais, en tout cas, un laboratoire qui était franchement exceptionnel et qui a joué aussi au fait que ça se passe aussi bien, quoi.
Tu parlais de, pendant cette manipulation où tu as découvert, voilà, ce que tu t'attendais pas à découvrir, tu as parlé d'une part de chance. Alors, ce qui est certain, c'est qu'il y a du travail derrière, mais est-ce que tu penses que cette chance, elle peut... Comment, je ne sais pas si je vais réussir à exprimer ce que je veux dire, mais quand on est débutant, alors même si tu n'étais pas débutante, mais dans le sens où tu étais voilà, au début de cette thèse de science, parfois on tente des choses ou on cherche des choses dans des secteurs où peut-être quelqu'un de plus confirmé se dirait « non mais ça ne sert à rien que je cherche là-dedans ». Est-ce que tu penses que quelqu'un qui débute va aller dans un secteur que quelqu'un de plus expérimenté aurait abandonné, puis au final peut être surpris par l'issue de... Ouais. La recherche, je ne sais pas si tu arrives à comprendre ce que je dis.
Ouais, oui, je comprends très bien ce que tu dis. Moi, c'était pas vraiment mon cas. Enfin, en fait, c'était, voilà. Bon, je pense que quelqu'un d'autre, c'est juste qu'il y avait aussi, en fait, il fallait que je me repenche sur cette question. En fait, les données, elles étaient là. Et en fait, mon chef, il a énormément de travail. Il est PUPH, donc il est universitaire, donc il s'occupe de patients, de l'enseignement, de la recherche, tout ça. Il est directeur de l'unité de recherche dans laquelle je suis. Et donc, du coup, voilà, il fallait que quelqu'un se penche. Donc, moi, je pense que ce qui a joué, c'est que je me suis repenchée sur cette question. J'ai re-regardé les données, probablement, oui, avec un œil nouveau.
C'est ça,
oui. Et c'est ça, et oui, peut-être que ça a aidé. Après, vraiment, je peux pas le dire assez. C'est vraiment un travail d'équipe. C'est-à-dire qu'au moment où moi je vais pointer le doigt, c'est aussi, en fait, derrière, mon chef, les
autres. Qu'est-ce qu'il va en faire?
Ah oui, en fait, attends, mais oui, je suis complètement d'accord. Je pense que t'as raison. Creuse. Ouais, est-ce que tu peux regarder ça? Ah oui, mais attends, moi j'ai regardé ça. Et en fait, les gens qui ont un peu plus d'expérience, qui vont aussi tout de suite dire, moi j'avais une certaine expérience qui m'a fait me dire ok, je pense que c'est pas inintéressant, mm-hmm. et donc je vais en parler et dire ok, je pense que ça vaut peut-être le coup. Et après, voilà, mais c'était vraiment tout le monde qui s'est un peu réuni autour de ce truc-là en disant ok, je pense que c'est vraiment intéressant, c'est bien ce que t'as mis en évidence, on va essayer de creuser et on va essayer de montrer que c'était pas juste voilà, typiquement un truc complètement artefactuel que tu as vu comme ça, et de vraiment montrer que c'était vrai. Et ça, c'est toute la deuxième partie du travail. Et c'est en fait finalement le plus gros du travail, parce que c'est de démontrer ce qu'on a mis en évidence, démontrer que c'est vrai. Ça, c'est l'essentiel du travail, quoi.
Et ça, après, donc quand ça part en publication scientifique dans le fameux journal scientifique dont tu parlais, quelle est l'issue quelle va être l'issue de ce que vous avez découvert pour que les personnes qui écoutent le podcast puissent comprendre vers quoi ça va mener. En fait.
Ouais, et du coup, c'est là aussi, c'est un peu comme les bourses. Tu envoies ton travail que tu vas mettre en forme. Voilà, tu vas expliquer ce que tu as fait. Tu envoies ton travail, et puis tu croises bien les doigts. Et en fait, là, va y avoir en fait des pairs, donc des scientifiques, voilà, qui vont être sélectionnés et qui vont évaluer ton travail. Donc, ça prend en général plusieurs mois. Et ensuite, on va te rendre l'évaluation de ce travail. Et donc, nous, par exemple, dans notre cas, on a essayé un premier journal scientifique qui nous a, au bout de plusieurs semaines, dit écoutez, c'est super, c'est très très bien, mais voilà, nous, on n'est pas intéressés pour publier dans notre journal. On vous souhaite le meilleur pour la suite. Et là, encore une fois, c'est comme la rupture, hein, donc c'est bien. Et donc là, c'est pareil, on remet en forme, on recommence et on essaye un autre journal. Et puis là, nous, on a eu de la chance, hein, pareil. C'est des fois, on peut faire, il y a des gens, enfin voilà, dix soumissions à des journaux scientifiques, et voilà, et pour est-ce que ça finisse par être publié. Et donc du coup, nous, ça a été le deuxième coup où on nous a dit ok, on a été pareil évalué par des experts du domaine qui ont dit très bien, en fait souvent on te demande des petites corrections, c'est-à-dire qu'on va te dire est-ce que tu peux revoir ça, et puis donc tu refais, tu revois, tu réenvoies, ils disent ok, cette fois c'est bon, et puis ensuite c'est publié. Et après ça accompagne en général un petit peu d'une diffusion de l'information, c'est-à-dire que moi du coup j'ai eu beaucoup de chance, je suis allée à plusieurs congrès internationaux pour présenter les travaux à des communications orales. Voilà, ça fait un peu partie des petits trucs chouettes du doctorat, c'est-à-dire que on va au congrès, ça permet de rencontrer plein d'autres gens qui ont les mêmes profils de chercheurs que nous et de discuter son projet, puis aussi d'avoir un feedback en direct, puisque du coup, en général, quand on présente, à la fin, il y a des gens qui posent des questions. Et du coup, c'est super chouette d'avoir aussi des gens. C'est très stressant, hein, mais c'est aussi très chouette d'avoir ce retour des gens et d'échanger autour des projets, quoi.
Super.
Et voilà. Et après, eh ben, il faut continuer. On ne s'arrête pas là. On continue. On continue d'autres projets. On fait avancer. On part sur d'autres idées. Voilà. Il faut embrayer tout de suite la machine pour continuer d'avancer, quoi, parce que c'est pas, moi, c'était 3 ans de recherche, donc c'était super. Mais après, il faut, si on veut continuer la recherche, il faut continuer, se poser d'autres questions, réfléchir à d'autres choses, et voilà.
Ça, j'imagine à quel point ça doit être gratifiant, du coup, déjà d'un point de vue personnel, de se dire ce que j'ai fait arrive à quelque chose. Puis après, cette publication dans le journal, j'imagine que pour toi, c'est la dernière marche de tout ce que tu gravis. Mais
ouais, c'était super.
Est-ce que c'est pas dur au quotidien d'être... bien sûr, les manipulations sont longues. En plus, tu l'as dit, hein, y a des choses, tu prends 2-3 mois de ton année pour quelque chose qui ne fonctionnera pas. Est-ce que c'est pas difficile parfois d'avoir toujours ce processus qui est très long et toutes ces étapes à franchir et d'avoir des objectifs à si long terme ? Comment tu le vis au quotidien dans ta carrière ?
Ouais, moi, c'est parfois dur parce que je suis quelqu'un de nature très impatiente, donc j'ai toujours envie d'aller vite. Ça c'est un peu, la thèse m'a appris à être patiente. Non, moi je trouve que c'est pas difficile. Ce qui est difficile, c'est quand c'est 3 ans de son travail et qu'on se fait, le journal dit c'est très bien, mais non. Ça c'est un peu dur parce que du coup c'est un peu comme les bourses, quoi. Je pense que dans tous les métiers et tout le monde pourra s'identifier à ça, le rejet, quel qu'il soit, quand on passe un entretien d'embauche, quand on demande une promotion qu'on n'a pas, le rejet c'est toujours difficile. Et en recherche ça change pas, en médecine c'est pareil dans tous les domaines en fait. On est face à un échec, c'est assez difficile. Comme dans tout, il va falloir se relever et ça parfois c'est ce qui est difficile, de se dire je fais tout ça, mais peut-être que
ouais,
je vais m'avoir la petite échéance à la fin où je vais me prendre un petit retour de bâton où je vais être un peu déçue et tout ça. Donc ça c'était parfois difficile, quoi, des moments un peu de doute. On se dit puis surtout quand c'est des experts du domaine et qui disent c'est bien, mais il manque ça, 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 il faudrait faire ça, il faudrait que vous rajoutiez ça à votre projet et à vos résultats, on se dit tout ça, oui, ça me paraissait déjà tellement ce que j'ai fait. Et puis en fait il faut relativiser, c'est-à-dire qu'il faut pas à chaque fois j'ai essayé de pas me morfondre pendant trop longtemps. J'ai essayé de accuser un peu le coup et puis dire ok, donc qu'est-ce qu'ils ont dit, ils ont dit qu'il fallait qu'on fasse ça on va essayer. J'en parle avec mon chef a aussi, et franchement je l'admire vachement parce qu'il est hyper positif comme ça. Il m'a dit ok, prends la soirée, digère la nouvelle, c'est pas grave, et on se pose demain et on repart avec un nouveau plan d'attaque et on recommence et on va préparer la suite et on va essayer de soumettre à un autre journal. Et ok, c'était pas l'issue qu'on avait imaginée initialement, mais c'est pas grave, on continue comme ça. Et je pense que ça ça joue sur la recherche, c'est-à-dire d'avoir quelqu'un, parce que moi toute seule, je suis pas sûre que j'aurais réussi à le faire de pas me laisser abattre. Et moi d'avoir un encadrant qui était là pour dire ok c'est bon, et puis aussi même mes proches qui disaient Fanny tu t'as beaucoup travaillé, c'est pas grave, ça va marcher, ça va finir par marcher. Il se trouve que mon mari a un parcours assez similaire, donc et toujours de super conseils en disant c'est pas grave, continue comme ça. On passe la soirée à digérer, on fait un peu autre chose, puis demain à tête reposée tu te repencheras sur la question, puis tu verras que finalement en fait et puis parfois on le prend très à cœur, mais il faut pas oublier, ce n'est qu'un métier, c'est pas toute sa vie. Je pense que aussi devenir mère m'a aidé à aussi avoir un peu distance, à me dire il y a quand même des choses bien plus importantes.
Dézoomer un peu sur ta pratique.
Exactement, c'est ça. De prendre un peu de distance et dire en fait c'est qu'un métier, et puis c'est maintenant je le vois vraiment comme ça, en fait c'est mon travail, ça fait partie du jeu, et j'essaye de relativiser. C'est parfois pas facile, il y a vraiment des moments où on doute, des moments où je me suis mise à pleurer en me disant et puis surtout que quand on a l'impression qu'on n'y arrive pas, mais il faut toujours prendre de la perspective et essayer de se dire ok, ça va aller, quoi, on va y arriver.
Est-ce que l'endocrinologie c'est un domaine dans lequel la recherche avance vite, et si oui, dans quelle... Alors, la question est hyper générale, mais est-ce que tu peux nous donner un peu des axes, vraiment, où toi, ces dernières années, tu as vu beaucoup de progrès de fait? Est-ce que, tu vois, c'est dans la gestion du diabète et... Voilà, qu'est-ce qui évolue ces dernières
alors,
années?
Alors, je dirais que oui. Je pense que... Donc déjà, il y a un axe de recherche qui est de comprendre les maladies endocriniennes. C'est-à-dire que pendant longtemps, en fait, on savait pas pourquoi, du jour au lendemain, quelqu'un devient diabétique, quelqu'un va développer une hypothyroïdie, ou des tumeurs plus rares de l'hypophyse, des choses comme ça. Donc il y a un énorme travail qui est de comprendre ça. Donc ça avance. Je dirais que ça avance relativement vite parce que ce que je disais tout à l'heure, l'avancée en fait des techniques de recherche nous aide à comprendre ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 30 ans, on disposait pas des mêmes techniques d'études du génome ou même des cultures cellulaires. Enfin, tout ça n'était pas les mêmes. Donc ça avance assez vite. Donc je dirais que c'est un pan de recherche. Donc en plus, moi, j'en suis assez sensible puisque c'est un peu le pan de la recherche que je fais, qui avance assez vite. Après, il y a aussi, tu as parlé dans le diabète, il y a tout un pan de la recherche qui est aussi d'améliorer... Donc ça, c'est la recherche. Ce que je parlais, c'est la recherche fondamentale. Mais on a aussi la recherche clinique, c'est-à-dire d'améliorer le diagnostic des maladies endocriniennes, qui parfois mettent du temps à être diagnostiquées. C'est des maladies qui sont rares, donc parfois, et c'est triste, il y a des patients qui vont passer 10 ans de leur vie à voir plusieurs médecins et qui, en fait, comme c'est franchement, ils savent pas. En fait, c'est des maladies tellement rares que ils vont pas forcément connecter tous les éléments que le patient a. Et donc, c'est une errance diagnostique sur laquelle nous, on essaye de travailler, c'est-à-dire de sensibiliser les gens. Donc ça, c'est le diagnostic et tout ça, puis les traitements. Et c'est là où je disais, parfois, les implications sont plus larges dans la recherche fondamentale. Mm-hmm. Parfois, on découvre des choses qui potentiellement, pas tout de suite, mais un jour amèneront à des nouvelles thérapies et des nouveaux traitements pour ces maladies. Moi, j'ai l'impression que ça avance assez vite. J'ai l'impression même qu'entre le début de mon internat et maintenant, par exemple, on a des nouveaux médicaments pour le diabète. Le pancréas artificiel, par exemple, dans le diabète, c'était quelque chose... qui, quand j'ai commencé mon internat, ça commençait, ça paraissait être un vague projet, enfin, pas du tout un vague projet, mais c'est, en tout cas, on se disait, est-ce qu'un jour, ça va être concret? On avait l'impression que c'était, il y avait que certains patients qui pouvaient en bénéficier, et maintenant, je vois bien. En fait, non, c'est de plus en plus, c'est suffisamment, en tout cas, disponible pour que maintenant, on se dise, il faut former les médecins et les endocrinologues à savoir s'occuper des gens qui ont un pancréas artificiel parce que c'est pas la même médecine que qu'on faisait il y a, moi, j'ai commencé mon internat il y a quasiment une dizaine d'années. Et du coup, je pense que sur tous les points, ça a changé. Et l'endocrinologie, ne fait pas exception. Je pense que vraiment tous les domaines médicaux avancent. Et le but de la recherche, c'est vraiment ça, quoi. Alors, ça a été un peu dur pendant le Covid parce que, les gens ont un peu aussi découvert ce que c'était, ont eu l'impression peut-être que, la recherche, ça prend du temps, mais ça avance, quoi. Et du coup, pendant le Covid, c'est vrai que c'est ça qui manquait peut-être, c'était le temps. Mmh. Et du coup, les gens comprenaient pas trop les process qui normalement sont mis en œuvre pour que tout soit fait de manière sécuritaire. Et du coup, ils se disaient, pourquoi? Enfin, je comprends pas si on a l'impression. En fait, non. La science, c'est pas juste l'impression, c'est il faut prouver que ce qu'on dit est vrai, quoi. Et on peut pas essayer un nouveau traitement comme ça à la va-vite. On peut pas, ça prend du temps, quoi.
Dans le mail que tu m'avais envoyé, je crois avoir lu que tu étais aussi enseignante, du coup.
Ouais, alors ça fait partie de l'activité de tous les chefs de clinique et de tous les, en fait, des universitaires, donc les gens qui travaillent dans les services hospitaliers qui sont attachés à la faculté. Okay. Une partie de notre responsabilité, c'est l'enseignement aux étudiants en médecine et aux internes. Donc moi, en plus de cette activité-là, je suis aussi, je fais partie, en fait. Des gens qui s'occupent de l'enseignement de l'endocrinologie auprès des étudiants. Donc en fait, ce sont les PUPH, les grands chefs qui vont décider de comment se répartissent ces enseignements, qu'est-ce qu'on va apprendre, tout ça. Et puis il y a tout ce qu'on apprend est soumis à une régulation, c'est-à-dire que c'est pas comme ça, quoi. On est soumis à des règles de qu'est-ce qu'il faut que les étudiants connaissent à la sortie de leurs études de médecine. Et ensuite, bah voilà, on va me dire par exemple, ah bah il y a le cours de sur tel sujet qu'il va falloir donner aux étudiants. Et donc bah voilà, je vais à la fac avec mon PowerPoint et puis bah du coup je vais essayer d'expliquer d'apprendre les choses aux étudiants. Il y a aussi bah forcément faire les sujets d'examen et l'enseignement dans le service à la fois aux étudiants en médecine, donc les externes où il faut leur apprendre les prémices en fait de la médecine, c'est-à-dire s'occuper d'un patient, comment c'est ça, et aussi aux internes qui sont les internes d'endocrinologie, leur apprendre un peu les rouages de la spécialité, leur apprendre des choses qu'ils n'ont pas appris pendant l'externat, d'aller plus dans le détail. Et ça, c'est une partie que moi j'adore. Moi je suis passionnée. Enfin, l'endocrino, c'est vraiment un truc que, en fait, à posteriori, j'adore ma spécialité. Je trouve ça passionnant. Je trouve que c'est hyper intéressant. En fait, des fois, je me dis, mais je comprends pas que ça intéresse pas tout le monde autant que moi, parce que Et du coup, j'adore en fait essayer de transmettre ça. Alors, je sais pas si je suis bonne enseignante ou pas. Je pense que être enseignant, ça s'apprend. Et une partie aussi, de ce que je fais actuellement, c'est d'apprendre à enseigner. C'est-à-dire, des côtés pédagogiques, par exemple, écrire une question d'examen. On s'improvise pas ça. Donc en fait, j'écris, je propose des choses. Mon chef, il va me corriger. Il va dire, par exemple, tu vois là, dans ta question d'examen, la façon dont tu as formulé la question. En fait, n'importe quel étudiant va trouver la réponse même s'il ne la connaît pas. Parce que la façon dont tu as formulé,
la réponse
c'est
déjà
comme
dedans.
C'est des QCM, la réponse est assez facile à trouver, tu vois.
Ah, d'accord.
Et donc, du coup, ça, c'est des petites choses. Et je trouve ça assez marrant parce que ça nous renvoie à nous, étudiants qui passions les examens, et à essayer de se mettre à leur place en disant… Alors, en fait, le but, c'est pas de les piéger parce que c'est pas du tout pédagogique de piéger les étudiants. Le but, c'est de s'assurer qu'ils connaissent les choses. Mais en même temps, en s'assurant de ça, c'est-à-dire qu'on ne leur a pas donné trop de choses qui fait que la réponse devient une évidence pour n'importe qui, quoi. Donc franchement, c'est vraiment un truc hyper intéressant. Et puis même, encore hier, je donnais un cours en amphithéâtre. Et chapeau à tous les enseignants, quoi. Moi, les profs et tout. Moi, ma maman, elle était prof et je pense que je ne me rendais pas compte, quoi. Maintenant que je donne des cours à un amphi, il y a 50 personnes dans l'amphi, captiver,
c'est dur.
Quand tu les vois sortir leur téléphone, pas se dire genre « Oh non, ça y est, j'ai perdu tout le monde, c'est hyper embêtant ce que je raconte, ils s'en foutent. » C'est super difficile. Et puis même aussi, les questions qu'ils vont poser à la fin, quoi. Ils sont hyper… ils sont hyper forts, quoi. Enfin, en fait, c'est simple, quoi. Ils posent des super bonnes questions. Donc, nous, on se dit, OK, donc il faut… Et puis, on est là pour leur donner les réponses adaptées à leurs questions. Donc, vraiment, c'est un exercice que je trouve aussi passionnant, qui est hyper intéressant et qui rend très humble. Je dois dire que ça, c'est sûr que ça… ça m'a donné une admiration pour tout le corps enseignant. Je me suis dit, on ne s'invente pas prof, quoi. C'est quelque chose qui va s'apprendre, qui va se forger avec le temps.
Complètement.
Et c'est aussi trop intéressant. Et je pense que, t'auras compris, j'adore apprendre des choses. L'enseignement en fait partie, quoi. Je trouve ça vraiment très, très chouette d'apprendre à enseigner et à transmettre ce que moi, je trouve génial, quoi.
Mais de toute façon, quand on aime apprendre, souvent on aime faire apprendre aux autres. Donc, logique de ton cursus. Enfin, je t'entendais raconter cette soif d'apprendre que tu avais. Et oui, du coup, l'enseignement, c'est presque la suite logique. Et du coup, à ce jour, ce cumul entre la médecine, la recherche, l'enseignement, c'est quelque chose qui te convient? Tu arrives à trouver un équilibre? Je pense même à la vie perso à côté. Dans ta vie, c'est confortable comme ça? Je pense que tu t'ennuies
pas. Trouver l'équilibre, je suis pas sûre que c'est le cas. Je vais être très honnête. Je suis maman et parfois je suis un peu émue, désolée, mais j'arrive pas à être aussi présente que je voudrais parce que j'ai beaucoup de travail, je finis tard. Mon fils, il fait des journées de crèche. Franchement, il fait 8h, 19h30 tous les jours. Donc ça, c'est dur. C'est dur de voir. Je suis émue quand on parle de ses enfants, c'est toujours
normal.
Un peu le cas. J'ai parfois du mal, en tout cas, à me dire, en fait, je suis OK avec tout ça, mais j'y travaille et ça finit par faire son chemin. Et un jour, on m'a dit quelque chose que je trouve assez vrai, qui est « ne fais pas trop de sacrifices de ta vie perso » de ta vie perso, mais aussi de ta vie pro, quoi. C'est-à-dire, En fait, si c'est ce que tu as envie de faire, et c'est, enfin, franchement, ça, c'est, même si parfois c'est dur, c'est ce que j'ai envie de faire. Moi, je suis à ma place, le métier que j'exerce aujourd'hui, il me passionne, j'adore tout ce que je fais. Et ben voilà, c'est de pas tout sacrifier pour dire, ben, en fait, la société dit que, ben, en fait, il faut aller chercher ses enfants à l'école, qu'il faut être toujours présent et tout ça. Essaye de trouver ton équilibre à toi. Mmh. Et en fait aussi, je m'accroche beaucoup en me disant, je suis aussi hyper fière que mon fils, il voit que, en fait, que sa mère, elle a bossé, qu'elle travaille.
Enfin, tu te rends compte le modèle?
Ouais, voilà, exactement. Donc, des fois, je me dis, bah, j'espère que, même si je peux parfois être pas suffisamment présente, tu vois, les coups de, en fait, appeler mes beaux-parents, mes parents en catastrophe, ah, bah, je dois partir en congrès, il faut le gérer pendant une semaine. Je pense que, bah, déjà, tous les gens qui bossent, hein, en fait, ont ces galères-là.
C'est évident.
Parfois, c'est difficile, tu vois, des fois, le week-end, moi, j'ai des deadlines et on se retrouve, en fait, avec mon mari à devoir gérer, de travailler à côté de notre fils ou des choses comme ça. Donc, c'est des grands moments de culpabilité. Je trouve que, bah voilà, en plusieurs années, j'ai quand même fait du chemin. Maintenant, j'essaye d'être en tout cas assez à l'aise avec ça. Et puis un jour, on m'a dit un truc qui m'a touchée. On m'a dit, bah, depuis que t'es devenue mère, tu es une meilleure, enfin, dans ton travail, quoi. C'est-à-dire qu'on voit que t'as pris aussi en confiance, que ça t'a donné aussi un peu des, voilà, un certain, voilà, quelque chose qui est important. Et je pense que, voilà, parfois, les femmes, en sciences, en médecine, on a, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est tout le monde le sait, un vrai plafond de verre. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on peut pas tout cumuler, que c'est pas possible. Et bah, du coup, moi, je me dis, bah, tout ça, certes, c'est difficile, mais c'est aussi, voilà, j'ai envie de dépasser ces idées-là, montrer que, en fait, on peut le faire. Moi, j'ai réussi, voilà, tu vois, à faire ma thèse de sciences, avoir un enfant qui, j'ai l'impression, en tout cas, est relativement épanoui, avoir une vie de famille qui, en tout cas, me convient. Et voilà, c'est parfois dur, je te le cache pas. Il y a des moments parfois où je me dis, bon, bah là, j'aimerais avoir plus de temps dans ma journée pour pouvoir aller au parc, voilà, être un peu plus patiente avec mon fils. Ou des fois, je suis un peu, bon, bah là, il faut vite aller au bain, il faut se dépêcher parce que, en fait, moi, je sais que derrière, il faut que j'ai encore 2 heures de boulot après l'avoir couché. Mmh. Et que je, voilà, donc des fois, ces moments-là, c'est dur, mais bon. Avec le temps, et je suis sûre que voilà, il faut être aussi indulgent avec soi-même. On fait du mieux qu'on peut en tant que parent et aussi en tant que voilà. Parfois, bah, je rends pas les choses à temps. Bon, bah voilà, c'est pas grave, quoi. C'est aussi parce que mon fils était malade, il a fallu que je gère ça. J'ai pas eu le temps de finir ça. Ça marche dans les deux sens, quoi. Il faut vraiment être indulgent avec soi-même. Parfois, dire je suis désolée, ce projet-là, ces trucs-là, je vais pas pouvoir le faire parce que. Bah voilà, là c'est pas possible, c'est trop. J'aurais trop de choses à négliger du côté perso que je suis pas prête à lâcher. Voilà.
Tu as cette possibilité là, toi, du coup, de pouvoir accepter ou non des tâches en fonction de ta charge de travail. C'est quelque chose que tu peux moduler un peu au quotidien.
Un tout petit peu, et j'ai de la chance d'avoir de bosser avec des gens qui sont quand même assez chouettes pour ça, quoi. C'est vrai que ça peut paraître tard, mais moi, voilà, tous mes collègues, à la fois à l'hôpital ou à la fois au laboratoire, enfin voilà, moi je dois partir à l'heure pour la crèche, et ça, tout le monde respecte ça. Mmh. Et donc c'est 7h30, donc tu me diras c'est pas très tôt, mais en fait en pratique, voilà, moi je pourrais bosser encore une heure derrière, quoi, mais tellement il y a des choses à faire, et je vois mes collègues restent souvent plus tard que moi au travail, surtout à l'hôpital. Et du coup, ça, c'est sûr que si je dis, en fait, je suis à la crèche, il faut que derrière, mes autres collègues disent, OK, pas de souci, vas-y, s'il reste 2-3 petites choses à faire, je leur demande parfois de m'aider, voilà. Okay. Donc, non, complètement, c'est. En tout cas, moi, j'ai l'impression que j'ai cette possibilité et que les gens sont assez indulgents aussi avec moi, quoi. Mm-hmm. Donc, ce qui est
bien
une
sûr.
Chance. Hein.
Bien sûr. Bon, merci Fanny. C'est hyper, hyper intéressant de connaître les dessous de
rien.
Toutes tes casquettes. Franchement.
Merci à toi aussi.
Chapeau.
C'est pas facile, je trouve, de raconter. Je sais pas, en fait, moi j'ai l'impression parfois que ma vie, elle est, elle est assez banale finalement.
Ah,
et
non, je te garantis que non.
J'avais quand même. Oh, c'est gentil. J'avais envie. Enfin, je trouve que c'est. J'avais envie que voilà que les gens se rendent compte et puis aussi montrer voilà un côté qu'on connaît pas forcément.
Exactement.
De l'enseignement, de la recherche et voilà de montrer que derrière tout ça c'est une mécanique où il y a plein de petites mains, plein de gens qui font plein de choses et que et qu'il faut. Et voilà, je trouve ça chouette que les gens, peut-être par mon témoignage, s'en rendent compte, quoi.
Mais bien sûr, et alors du coup, s'il y a des gens qui veulent aller encore plus loin, je reprends mes notes parce que je me souviens des personnes, des prénoms, de ce qu'ils ont fait, mais par contre, le numéro de l'épisode, je m'en souviens jamais. Donc, épisode 49, on parlait des acteurs de la recherche. Il y a Elsa, infirmière en recherche clinique. C'est un épisode qui est hyper intéressant, qui permet justement de comprendre quand on demande typiquement le consentement des patients en leur disant si vous acceptez que cette pièce opératoire prélevée il y a X années... Alors, c'est pas toujours le cas pour ce que racontait Elsa, mais... Enfin, c'est pas forcément des pièces opératoires, je vais dire. C'est le cas que le consentement est demandé à chaque fois. Mais c'est intéressant de comprendre justement les dessous de la recherche et de comprendre les différents acteurs. Mais ouais, trop chouette. Un grand merci, Fanny, pour tout ça. On va finir l'épisode avec encore quelques petites questions pour te connaître encore mieux.
J'ai vu ça.
Oui, alors, du coup, pour les gens qui nous écoutent, moi, j'envoie les questions en amont à mes invités parce que j'ai pas envie de les prendre sur le vif. Donc, comme ça, les gens peuvent réfléchir à leurs réponses. La première question, que dirais-tu à la Fanny d'il y a 10 ans? Alors, t'en étais où il y a 10 ans?
Alors, donc moi, je pense que je bats tous les records en termes d'inscription dans l'enseignement supérieur, parce qu'il y a 10 ans, en fait, j'étais déjà en post-bac, j'étais dans la fin de mon externat, je pense. Et ben, je dirais, tu vas y arriver, fais-toi confiance, fais ce que t'aimes, et si tu fais ce que t'aimes, ça, tu seras heureuse.
Question suivante, qu'est-ce que tu as appris pendant l'exercice de ta profession et que tu n'avais pas appris pendant tes études ?
Franchement, ma réponse, elle est peut-être pas terrible, mais la réalité. Je trouve que c'est vrai à la fois en médecine, à la fois en recherche. En fait, on apprend la théorie, et par exemple, un truc que je trouve peut-être un bon exemple, c'est la théorie, par exemple, des bilans hormonaux. C'est-à-dire qu'on va faire une prescription, le patient il va aller au laboratoire, il fait sa prise de sang, puis il nous la ramène. Et nous, on nous apprend, dans telle maladie, le bilan, il est comme ci, il est comme ça. Mm-hmm. Et en fait, quand on arrive et qu'on voit les patients, en fait, des fois, il y a des bilans qui sont discordants, il y a des choses qui ne sont pas comme dans les livres. Okay. Et ça, c'est la réalité de ce que c'est, et c'est valable, je pense, pour toutes les spécialités, entre ce qui est écrit dans les livres et ce qui se passe dans la réalité, l'internat et c'est ça qui, enfin, et la pratique, c'est ça qui fait qu'on s'améliore et qu'on maîtrise ces nuances-là. Et c'est aussi valable en recherche, quoi. C'est vraiment, c'est assez bateau à dire, mais en gros, la réalité et l'expérience.
Ouais, c'est l'expérience et la pratique qui vont t'apporter plus de choses que la théorie. Enfin, bien que tu aies passé un long moment pendant les études, c'est vraiment que la pratique qui va t'apprendre à exercer ta profession.
Ouais.
Question suivante, la chanson qui te booste quand tu as un coup de mou.
Donc là, je vais vraiment dévoiler n'importe quoi de Taylor Swift, puisque je suis une fan de Taylor Swift, inconditionnelle. Et donc, j'ai par exemple, quand j'écrivais ma thèse, dès que j'ai des trucs à faire, je mets du Taylor Swift et je n'écoute que ça. Donc, pendant les 3 mois d'écriture de ma thèse, j'ai écouté que ça en boucle. Donc n'importe quelle chanson de Taylor Swift fait bien l'affaire en général.
Est-ce que tu as réussi à la voir en concert ou pas encore ?
Oui, c'est une de mes grandes fiertés puisque j'ai traîné mon mari jusqu'à Amsterdam une fois. Oh. Une fois quand j'étais aux États-Unis pendant un an, elle est passée en concert, donc je l'ai vue. Enfin j'ai eu beaucoup de chance. Non, je suis une vraie fan, quoi.
Il paraît qu'en concert, c'est une sacrée expérience. C'est pour ça que je te posais la question.
Ouais, c'était vraiment super bien. C'est un show, quoi. Donc, je pense même quand on n'est pas fan, en fait, je pense que tous les artistes qui sont comme ça, qui font des énormes trucs, c'est vraiment des shows, quoi. Non, voilà.
Ah, trop
c'était,
bien.
C'était super.
Question suivante, la plus belle phrase qu'un patient t'ait dite.
Franchement, j'ai cherché et j'ai pas trouvé. Je dirais qu'à chaque fois qu'un patient me dit merci, ça me touche toujours autant. En fait, il n'y a pas. Voilà, je trouve quand il me dit merci docteur ou voilà, ça me fait toujours un petit coup. C'est toujours sympa de s'entendre se faire appeler docteur. Ça fait toujours un petit truc quand on a fait des études aussi longues. Ça perd pas de sa saveur avec le temps. Et d'entendre les gens qui disent merci et qui ont l'air de se dire, on a l'air de vraiment avoir fait quelque chose qui leur a fait du bien, c'est toujours agréable.
Question suivante, ton meilleur fou rire au travail ?
Alors, franchement, j'ai pas trouvé. Je suis dans un laboratoire de recherche où il y a d'autres thésards, d'autres ingénieurs de recherche et d'ingénieurs d'études. Enfin, voilà, il y a plein de monde avec qui on s'entend bien. Et donc, je dois dire que, voilà, on a beaucoup rigolé pendant ces 3 ans où j'étais là. Et puis, même à l'hôpital, hein, en fait, j'ai des collègues qui sont super. Donc, voilà, franchement, je retiendrai pas un moment particulier. Mais par contre, moi, j'ai toujours été la chance d'être dans des équipes où il y a une super ambiance, où tout le monde s'entend bien et où vraiment c'est chouette, quoi. On rigole bien.
Tant mieux. Non, franchement. Tant mieux. Des endroits où on rit vraiment au quotidien.
Ouais, c'est ça, exactement. Où il y a toujours un petit truc qui va faire sourire, l'anecdote, voilà, des petits trucs toujours sympas, quoi.
C'est l'essentiel. Et la dernière question, un titre de film qui résume ta carrière?
Alors ça, elle est vraiment hyper dure, cette question. Franchement, j'ai cherché. Et puis alors, tu vois, mon mari, je lui demande, il me dit, Marie Curie, je dis, oui, ne nous emballons pas quand même. Je pense que non, parce que donc, il y a un film qui a été fait sur sa vie. Donc franchement, c'était hyper dur. Et du coup, pour toucher à mon autre passion dans la vie, je dirais Harry Potter à l'école des sorciers en version à l'école de médecine.
Très bien.
Mais voilà, franchement, c'est dur parce que, encore une fois, je pense que j'ai un parcours qui, bon, peut-être atypique, mais qui est quand même classique pour les gens qui suivent cette voie-là. Donc voilà. J'ai eu du mal à trouver, donc je retombe sur Harry Potter à l'école des sorciers. Ça sera...
Très bien. Voilà. Mais écoute, entre Harry Potter et Taylor Swift, on commence à quand même mieux te cerner en cette fin d'épisode.
Ouais, là, y a, pour les gens qui écoutent, vous avez tout.
Voilà.
C'est les deux axes. Exactement, c'est ça.
Bon, c'est super. Un grand merci, Fanny.
Eh bien, merci à toi. Franchement, j'étais très touchée. Que tu sois, que tu aies envie d'entendre mon témoignage. Donc, merci beaucoup.
Non, c'était un plaisir de te recevoir et je te souhaite bonne continuation. Plein de belles découvertes scientifiques, plein d'algorithmes qui te permettent d'arriver sur des résultats que tu espères, que tu attends, et plein de succès, plein de publications médicales. Je te souhaite tout ça.
Merci, c'est gentil.
À bientôt, Fanny.
À bientôt.
Merci beaucoup à Fanny pour ce partage à cœur ouvert. Suite à l'écoute de cet épisode, et si vous souhaitez en savoir davantage sur le domaine de la recherche en général, je vous invite donc à découvrir les épisodes 34 et 49 qui vous présenteront les portraits d'Océane et d'Elsa, d'autres acteurs du même domaine. Merci pour vos nombreuses écoutes et à bientôt sur Compresse Esparadrap.